C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.
Bonjour à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur C'est l'info pour un 12e numéro, une heure d'analyse et de décryptage de l'actualité. Au sommaire cette semaine, bonne nouvelle dans le paysage économique français, la Banque de France a relevé le mois dernier ses prévisions de croissance de 1,4% en 2017, puis 1,6% en 2018 et 2019, en raison principalement de l'embellie de l'environnement international. Alors justement, comment se portera réellement la croissance française en 2018 ? Peut-on parler réellement d'embellie ? Et surtout, quels sont les atouts économiques de la France et ses faiblesses ? Toutes les réponses à vos questions avec Denis Ferrand. Il est économiste, directeur général de Coe Rexecode. Début octobre 2017, l'ISRN français et d'autres régulateurs nucléaires européens ont détecté un nuage radioactif de faible intensité au-dessus de l'Europe. Il venait vraisemblablement du sud de l'Oural, de Russie ou du Kazakhstan. Il n'y aurait eu aucune conséquence pour la santé des populations du continent, mais l'annonce a provoqué quelques émotions. Sébastien Gobert, notre reporter, s'est rendu sur place. Et puis dans un dernier contre-pied victorieux, la France l'a emporté dans la course à l'attribution de la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra en France et en septembre en 2023. En dépit de la recommandation technique de World Rugby, la fédération internationale, la candidature française l'a emporté sur celle de l'Afrique du Sud. Pour le London Times, c'est parce que la France avait le plus gros carnet de chèques qu'elle l'a emporté. L'occasion de revenir sur cet événement et cette controverse avec Raphaël Redon. Soyez les bienvenus, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est l'info. Tous les voyants sont au vert ou presque. La croissance française a atteint 0,5% au troisième trimestre, a indiqué l'INSEE. C'est le quatrième trimestre consécutif qu'elle atteint ou dépasse ce chiffre. Et la performance du deuxième trimestre ayant été déjà revue légèrement à la hausse, plus 0,6%, il est désormais probable que le PIB progressera de 1,8% cette année, soit un peu plus que ce qu'espère le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe. Voilà qui lui facilitera la tâche sur le front budgétaire. Denis Ferrand, bonjour. Vous êtes économiste, directeur de Coe Rexecode, un centre d'études économiques indépendant. Quelles sont vos anticipations pour les prochains trimestres à venir ?
Il nous paraît raisonnable d'anticiper, pour l'instant, sur l'économie française. C'est que on voit bien qu'on est sur un régime qui est désormais stabilisé, avec une croissance qui paraît relativement saine. Une croissance, donc, on est sur un rythme instantané de 2%. Donc le 2% qui est espéré sur l'ensemble de l'année 2018, il est déjà là. Ça fait 4 trimestres de suite qu'on a une croissance qui est au voisinage de 2 et même un petit peu plus que 2 si on prend la moyenne des 4 derniers trimestres. Donc on a une croissance qui est là avec une consommation qui redémarre un petit peu, qui est soutenue par l'emploi dont on ne voit pas tellement de raisons qu'il flanche. Il y avait une petite inquiétude qui était liée à la fin d'une mesure qui avait été adoptée, une mesure d'incitation à l'embauche dans les PME pour des contrats d'une durée de plus de 6 mois. Cette mesure est venue à son terme au 30 juin et on craignait que l'emploi ne flanche une fois cette mesure arrivée à son terme, eh bien cette inquiétude se dissipe plus tôt. On a des orientations sur l'emploi qui sont quand même assez favorables, y compris dans les toutes dernières enquêtes de conjoncture. Donc la consommation est au rendez-vous, s'appuyant sur un socle qui est le socle des revenus primaires, les revenus tirés de l'activité, donc liés à l'emploi, avec des salaires également qui retrouvent déjà une orientation un peu positive. Sur l'investissement, on voit bien qu'il y a aussi eu un tournant qui a été adopté. Là encore, a été surmonté le risque qui était associé à la fin d'une autre mesure, non pas celle de l'embauche dans les PME, mais celle de la mesure du suramortissement des investissements. Une mesure qui permettait aux entreprises de déclarer plus que la valeur de ce qu'elles investissaient dans leur compte, et ce de manière temporaire, afin d'avoir un effet de baisse de leur base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés. Donc, dès lors qu'elles investissaient dans un certain type de biens d'équipement, eh bien, elles pouvaient avoir une réduction de leur base fiscale à proportion du montant de l'investissement réalisé. Cette mesure est venue à son terme en avril, donc comme toute mesure temporaire, on craignait un contre-coup qui aurait pu se manifester, mais ce contre-coup n'est pas venu. De fait, on voit que l'investissement dans les entreprises reste encore sur une trajectoire positive et on est sur un niveau de taux d'investissement qui paraît assez positif et dont on ne voit pas tellement de raisons qu'il flanche aujourd'hui parce que La situation des entreprises s'est un peu améliorée, hein, mais pour des raisons qui sont quand même principalement circonstancielles, des raisons qui tiennent à ce qu'il y a l'ombre portée de la baisse passée du prix du pétrole qui est intervenue. Il y a également les mesures de politique économique, la faiblesse des taux, les mesures de politique économique type CICE, pacte de responsabilité, la faiblesse des taux qui sont tous des facteurs qui ont contribué quand même sensiblement à l'amélioration des résultats des entreprises. Mais ce sont des facteurs sur lesquels les entreprises n'ont pas la main. Ce sont des facteurs qui sont de nature circonstancielle, qui sont exogènes au fonctionnement des entreprises. Ce n'est pas elles qui vont décider du prix du pétrole, ce n'est pas elles qui vont décider de la mise en place de mesures de politique économique. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une condition de croissance, de progression des résultats des entreprises qui repose plus sur des mécanismes de nature endogène, propres à l'activité des entreprises, et moins sur des éléments circonstanciels. Donc, c'est ça qui fait qu'on pourra avoir ou pas la poursuite d'une dynamique favorable sur l'investissement.
Et alors justement, l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai est-elle perçue comme positive pour l'économie et plus précisément pour l'an prochain, pour 2018, hein?
Bon, déjà, il faut, ce n'est pas une élection qui change le climat des affaires. Le climat
On est
des
d'accord.
affaires était plutôt positif avant l'élection présidentielle. Enfin, il ne faut pas surjouer le résultat d'une élection présidentielle. En revanche, il faut beaucoup plus apprécier les mesures qui sont adoptées suite à une élection présidentielle. Donc, c'est évidemment les mesures, notamment de réforme du marché du travail, où un primat un petit peu plus important est donné à la négociation dans les entreprises pour pouvoir trouver des règles d'adaptation aux évolutions conjoncturelles. Un primat donné sur les accords des entreprises par rapport aux désaccords au niveau des branches ou noués au niveau de l'interprofession, donc des accords généraux. Donc ça, c'est une orientation qui est saluée par les entreprises, qui est positive, avec également une meilleure anticipation des coûts de la séparation entre un salarié et une entreprise, et d'une certaine manière, ben, un encouragement à de la mobilité, à de la fluidité sur le fonctionnement du marché du travail, qui est plutôt salué positivement. Deuxième élément de politique économique positif, en tout cas perçu comme tel dans le monde de l'entreprise et qui est favorable à l'investissement, c'est le fait qu'on sorte de cette atypie fondamentale que l'on a en France, qui était d'avoir, dans certaines circonstances, une taxation on taxait plus les revenus du capital que le capital ne pouvait générer de revenus par un mécanisme compliqué où on taxe à la fois les revenus du capital et le stock de capital. Donc on taxe à la fois les flux et les stocks, et donc on pouvait avoir des situations totalement aberrantes, totalement anti-économiques, où l'intégralité, et même au-delà de l'intégralité des revenus du capital que vous pouviez dégager, dans certaines circonstances, eh bien, partait en prélèvement et ne restait pas à disposition du détenteur du capital. Donc la réforme de la fiscalité du capital, l'introduction du prélèvement forfaitaire unique, est un élément qui vient corriger une atypie fondamentale de l'économie française, et donc c'est plutôt une indication qui est favorable. Quant à dire à quel horizon on doit en attendre un résultat en termes de stimulation de croissance économique additionnelle, ce n'est pas un effet qui va se voir sur l'exercice 2018. Il
C'est
faut
ça.
une adoption des conséquences de ces réformes par les acteurs pour que, eh bien, derrière, vous ayez un changement de comportement. Donc on est beaucoup plus sur des réformes qui viennent déplacer vers le haut le niveau, le potentiel de croissance de l'économie française, le potentiel de production, la capacité à produire de cette économie, plus que cela ne vient changer la croissance à très court terme. La croissance à très court terme est beaucoup plus dictée par des circonstances d'environnement plutôt que par des circonstances de fonctionnement immédiate du marché du travail, de transformation de son organisation. Donc il y a un temps d'adoption qui fait qu'il faut attendre des effets beaucoup plus lointains, plus sur du moyen terme que sur un résultat très, très immédiat.
C'est ça, hein, là, la présidence Macron est uniquement pour l'instant une présidence psychologique. Et alors justement, Denis Ferrand.
Psychologique, bon, c'est peut-être un petit peu,
Oui.
c'est peut-être un peu rapide, hein. Ce n'est pas une non, ce n'est pas une présidence psychologique, parce que les réformes qui sont adoptées sont des réformes qui sont fondamentales. Mais
Mais
il
qui
y a
pour l'instant
l'adoption des
ne
réformes
sont
qui, elles, prend inévitablement un peu de temps. Mais de toute façon, les ordonnances, c'est pas du psychologique, hein. C'est quelque chose qui est désormais en application, tout comme la réforme de la fiscalité du capital est votée.
Tout à fait, mais voilà, les résultats n'arriveront que dans 18 mois. Les réformes Schröder en Allemagne avaient mis 3 à 4 ans à porter leurs fruits. Donc voilà, il faut du temps également. Et alors justement, vos prévisions pour l'année 2018, on croule effectivement, on le voit actuellement sous les bonnes nouvelles, mois après mois, trimestre après trimestre, les bonnes nouvelles s'accumulent, ça va continuer?
Justement, nous préférons garder pour l'instant une posture assez prudente. Mais quand je dis prudente, c'est éviter de céder à l'emballement, hein. C'est vrai qu'on serait tenté de se dire, ouais, ça y est, on a accéléré, et pourquoi pas aller au-delà de 2 sur l'ensemble de l'année. Je pense que justement, il faut regarder et revenir sur les éléments qui ont façonné cette croissance au cours des derniers mois, des derniers trimestres. La composante exogène que j'évoquais tout à l'heure, hein, la composante pétrole, la composante taux, la composante euro, ces trois composantes ont été quand même assez fondamentales. Elles ont joué fortement sur la dynamique de croissance et quelques-unes de ces composantes se sont quand même renversées. On le voit sur le pétrole, hein, 65 $ pour le baril de Brent. C'est un doublement du prix du pétrole par rapport au point bas que l'on avait en janvier 2016. L'euro à 1,16 n'est pas un euro qui est un niveau dirimant pour l'économie européenne, mais on est moins à l'aise que quand il était à 1,05 $. Les taux. Évidemment, la BCE ne va pas se précipiter pour remonter les taux, mais on a clairement changé d'environnement pour ce qui concerne les taux. Donc, les éléments exogènes sont moins porteurs désormais. Et puis, dans le cadre de l'économie française, se pose désormais un autre type de question. C'est-à-dire, c'est pas tant une question au regard du niveau de la demande qu'une question quant à sa capacité à tenir la cadence. À tenir la cadence, cela c'est est-ce qu'il y a une véritable aptitude à saisir les opportunités de la croissance? Et là, il me semble qu'il y a deux indicateurs qui sont assez intéressants à garder présents à l'esprit, qui sont la comparaison de ce qu'est notre dynamique d'exportation par rapport à ce qu'on appelle la dynamique de la demande mondiale adressée à l'économie française. La demande mondiale, c'est en gros quelle est la croissance des importations de mes partenaires. Donc, qu'est-ce que j'imagine être la croissance du marché auquel je m'adresse et quelle est la croissance de mes exportations que je mets en regard? Eh bien, on se rend compte que, en gros, la croissance des importations des partenaires de l'économie française, c'est 5% sur l'année 2017. La croissance de nos exportations, c'est 3%. Donc, cela veut dire qu'en gros, on a moins cru que ce que nous promettait la progression des importations de nos partenaires. Donc, on a à nouveau des pertes de parts de marché qui s'opèrent. Et ça, c'est un premier indicateur qui dit bien qu'on a un peu de mal à capter une demande mondiale, non pas parce qu'on est mal spécialisé, mais parce que fondamentalement, on n'arrive pas à répondre. Et c'est là que j'en viens à mon second indicateur, qui est celui que l'on appelle les difficultés d'offre. Vous avez l'INSEE qui interroge chaque trimestre les industriels et qui leur pose une question très, très binaire. Il leur demande est-ce que vous êtes plutôt confronté à des difficultés liées au niveau de la demande que vous percevez ou qui s'adresse à vous, ou est-ce que vous êtes plutôt freiné dans votre activité par des difficultés d'offre, parce que vous avez des difficultés de recrutement, parce que vos capacités de production sont insuffisamment développées. Et en fait, quand on regarde les résultats de cette dernière enquête, quand on prend les résultats de l'enquête d'octobre, par exemple, qui sont parus à la fin du mois dernier, eh bien, vous vous rendez compte qu'on a retrouvé aujourd'hui une situation où il y a plus d'industriels qui se déclarent confrontés à des difficultés d'offres que d'industriels qui se déclarent confrontés à des difficultés de demande. Quand on se tourne du côté des services, quand on se tourne du côté de la construction, on voit là encore que les difficultés de recrutement, là, on parle spécifiquement de recrutement sur cette catégorie d'offres, les difficultés de recrutement se tendent à nouveau quand même très fortement, et c'est ça qui vient interroger notre capacité à avoir encore une accélération. Est-ce que vraiment l'économie française a une capacité à croître au-delà de ce 2%? Eh bien, je pense que c'est cette question qui va se poser de manière de plus en plus aiguë au cours des prochains mois, si tant est que l'environnement économique mondial reste aussi porteur que ce qu'il est actuellement.
Oui, 9 entreprises sur 10 ont du mal à recruter dans la construction, 4 sur 10 au général. 9% de chômeurs aujourd'hui, voilà, bon, baisse oui. au mois de septembre du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, mais les deux mois précédents avaient beaucoup augmenté. En préparant cette entrevue, je lisais une étude de votre cabinet qui disait qu'il n'y avait pas d'accélération des salaires, mais au contraire une accélération des CDI. On n'a jamais créé autant de CDI que lors de ces dernières années. Quel serait le niveau de chômage incompressible en France aujourd'hui ?
Mais on a l'impression que l'on n'en est pas très loin. Et c'est là qu'il y a une véritable question qui est une question fondamentale d'un problème d'appariement, d'association entre une offre et une demande de qualification, et un appariement qui semble mal s'effectuer au regard du taux de chômage que l'on connaît actuellement et de voir déjà des difficultés de recrutement, et l'économie française risquait de buter sur cette capacité à croître. C'est ça qui aujourd'hui nous pose fondamentalement question, et sachant que on peut se poser la question d'adaptation des qualifications demandées avec les qualifications qui sont offertes, et puis aussi la question générale du niveau de qualification de la main-d'œuvre. Je prends pour exemple l'enquête PIAAC, hein, ce qui est l'enquête un peu le pendant de l'enquête PISA, qui s'effectue auprès des élèves des classes primaires. Vous avez une enquête qui est réalisée par l'OCDE, une enquête internationale, qui essaye d'apprécier les qualifications moyennes de la main-d'œuvre ou en tout cas de la population adulte. Et on se rend compte que sur les capacités à de l'anglicisme, mais les capacités en numératie, en littératie des adultes, et on se rend compte que la France est quand même en retrait, et sensiblement en retrait de la moyenne des pays de l'OCDE et en retrait également de l'Allemagne. Et ce, pour quelques niveaux de qualification que ce soit, pour quelques générations d'adultes que ce soit, plutôt les plus jeunes ou plutôt les plus âgés, quel que soit le niveau d'emploi que vous avez dans l'économie, eh bien, on a globalement un niveau de qualification, un niveau de compétences génériques, on va dire, plutôt plus faible en France que dans la moyenne de l'OCDE. Et c'est ça aussi qui pose quand même question sur, aujourd'hui, notre capacité à continuer à croître. Parce que, de toute façon, la croissance, elle se résout dans deux dimensions. Une dimension qui est une dimension de nature quantitative. Quel est le capital que je peux mobiliser et quelle est la quantité de travail, entre guillemets, que je peux mobiliser. Ça procède d'un emploi, ça procède d'un équilibre d'un équilibre du marché du travail, d'un taux de chômage, ça procède également d'une durée du travail. Et puis, ça c'est la dimension quantitative. Et puis, la deuxième dimension, qui est une dimension, on va dire, d'efficacité, c'est-à-dire la capacité à associer de manière productive le capital et le travail que vous mobilisez dans le travail, et bien dans l'économie. Eh bien, on se rend compte que la croissance du stock de capital ralentit, que rapidement sur notre capacité à développer de l'emploi, eh bien, on peut buter sur un problème de qualification d'une manière générale. Et puis, bien, in fine, nos gains de productivité ont ralenti, ce qui fait que quand on fait l'ensemble de la somme de ces éléments de nature quantitative et de nature d'efficacité des gains de productivité, on se rend compte que le potentiel fondamental de l'économie française n'est pas un potentiel à 2%. Le potentiel de l'économie française, c'est plutôt quelque part entre 1 et 1,2% de croissance par an. Alors oui, on peut faire quelques années, 1, 2, 3 années à un rythme de croissance de 2%, mais très rapidement, eh bien, on vient buter sur des contraintes, sur une forme de saturation de l'utilisation de capacités qui sont malheureusement insuffisamment développées.
Denis Ferrand, l'économie mondiale à présent. Brexit, élection de Trump, tensions entre États-Unis et Corée du Nord, mais aussi catastrophes naturelles. L'ensemble de ces activités constituent des risques, hein, qui pourraient à terme menacer ce regain d'activité dans les économies avancées et sur les zones émergentes.
Alors, il y a plusieurs sujets. J'aurais ajouté aussi évidemment le sujet qui est un peu l'antienne du FMI, hein, sur les derniers temps, qui était le très fort développement de l'endettement dans l'ensemble du monde, hein, et notamment dans les économies émergentes.
Oui, nous sommes plus endettés qu'il y a 10 ans, en 2007, avant la crise.
Oui, tout à fait, tout à fait. Notamment en Chine, c'est là qu'il y a eu un déploiement quand même très important de l'endettement notamment des entreprises, qui était, les feux ont été poussés quand même vraiment très très loin sur cet aspect. Donc il y a cette inquiétude forte sur les niveaux d'endettement qui sont pour l'instant soutenables. parce que partout les taux sont quand même effondrés, hein, et ça de manière assez claire, hein, donc on a vraiment des taux qui partout sont très bas, ça rend jusqu'à présent l'endettement soutenable, mais on est déjà en train de passer un peu des seuils d'alerte. Par exemple, quand vous regardez ce que représente le service de la dette en Chine, hein, donc ce que l'ensemble des agents privés doivent sortir pour à la fois payer les intérêts, mais également pour rembourser les échéances du capital, eh bien, on est passé sur des masses qui représentent désormais 20% du revenu des agents privés. Donc 20% du revenu part au service de la dette, remboursement des intérêts et du capital. C'est des proportions qui sont comparables à celles que, par exemple, pouvait connaître un pays comme la Corée au moment du déclenchement de la crise de 97. Donc il y a des seuils d'alerte, clairement, qui sont atteints de ce côté. Pour autant, même sur l'activité mondiale, il est certain que le Brexit est un élément d'inquiétude qui est à nos frontières et qui porte sur la capacité de croître de l'économie britannique, qui est une économie fondamentalement déséquilibrée, une économie dont à la fois les ménages, les entreprises et les administrations publiques présentent un besoin de financement, ce qui est le corollaire d'un déficit courant extrêmement prononcé du côté britannique. Et on a des ménages, par exemple, qui ont totalement qui ont épuisé leur capacité d'épargne, hein, sur la période récente pour pouvoir continuer à soutenir un flux de consommation. Donc, il y a clairement une inquiétude à avoir du côté britannique, qui plus est si les négociations de sortie s'enveniment entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, clairement, c'est une épée de Damoclès qui est là. Puis d'une manière peut-être plus générale, c'est un peu la sortie, comment est-ce qu'on arrive à faire la sortie de cette mithridatisation que l'on a eue, cette mithridatisation par les taux bas, probablement un peu trop longtemps. On voit bien qu'on ne sait pas véritablement sortir de cette phase et de cette phase de politique monétaire extrêmement souple. Alors la Fed le fait très progressivement et donne un petit peu l'orientation générale du chemin qu'emprunteront par la suite, notamment la BCE, la Banque de Suisse ou la Banque de Suède. Mais justement, la Suède, par exemple, est un cas très intéressant que l'on ne regarde pas beaucoup. Mais la Suède, c'est une économie qui croît de plus de 4%, qui a une bulle immobilière qui s'est formée, qui a un déficit commercial, ce qui n'a jamais été vu dans une économie comme la Suède en 40 ans, et pour autant, mais qui a encore des taux directeurs négatifs. Donc, on est dans une situation où vous avez tous les stigmates d'une surchauffe dans certaines économies qui ont poussé très loin les feux de la baisse des taux et de la politique monétaire extrêmement souple. Et pour autant, eh bien, la réaction qui serait une réaction, on va dire, classique, si on regardait les canons habituels de l'analyse économique, le mouvement devrait être celui d'une hausse des taux d'intérêt, eh bien ce mouvement ne se fait pas parce que derrière, eh bien, c'est une perception d'un risque de remontée de la valeur de la couronne suédoise, enfin dans ce cas précis, contre l'euro, et donc d'un risque de perte de compétitivité et d'aggravation, ce faisant, du déficit commercial suédois qui pourrait intervenir. Donc, si vous voulez, moi, ce qui plus que des spots, plus que des risques spécifiques, c'est un peu cette inquiétude, cette perte un peu de contrôle, de reprise de main sur les trajectoires de politique économique qui aujourd'hui viennent un peu m'inquiéter, parce qu'on voit bien qu'on sait qu'il faut sortir des politiques monétaires, ne serait-ce que pour se donner un peu de souplesse et une capacité de réaction quand il viendra inévitablement un petit retournement conjoncturel. Il faut se redonner des armes, recharger un petit peu le bazooka dont Monsieur Draghi s'était prévalu à un moment. Il faut recharger les armes et on n'ose pas le faire, on le fait à pas extrêmement compté et on risque de se retrouver nu le jour où viendra le prochain ralentissement conjoncturel. Alors, est-ce que ce ralentissement viendra des États-Unis? Peut-être, c'est vrai que comme le dit souvent Janet Yellen, les cycles ne meurent pas de vieillesse, hein. C'est pas parce que ça fait 100 mois désormais consécutifs de croissance que l'on observe aux États-Unis, ce qui en fait l'une des phases de croissance les plus longues qu'ait connue cette économie, que désormais, le cycle doit s'arrêter. Mais il ne faut pas passer sous le radar quelques indications quand même assez fortes qui apparaissent notamment dans l'orientation de la réforme fiscale américaine. Le risque de déception est peut-être peut-être important, c'est-à-dire que cette réforme fiscale ressemble un peu à une opportunité ratée, une opportunité qui aurait été celle de créer les conditions d'une augmentation du potentiel de croissance de l'économie américaine, parce que tout à l'heure on en parlait dans le cas de la France, une croissance potentielle que l'on peut estimer aux environs de 1,2. Dans le cas des États-Unis, ce potentiel de croissance, il a fléchi et dans des proportions quand même assez marquées, d'un rythme de 3% dans les années 2000, il est désormais plutôt un petit peu en dessous de 2%, aux environs de 1,8, en tout cas c'est l'estimation que donne le Congressional Budget Office. Donc on voit bien qu'il y avait cette réforme fiscale aurait pu être l'occasion par un encouragement de l'investissement, par un encouragement de l'entrepreneuriat, aurait pu être un moment précieux pour relancer le potentiel. C'est une opportunité qui est ratée parce qu'il y a un peu de saupoudrage entre une politique de stimulation de l'offre, encourager l'investissement, et également une politique de stimulation de la demande, mais dans une enveloppe réduite, ce qui fait que l'effet global risque d'être pas trop saupoudré pour permettre véritablement de soutenir encore le cycle économique et peut-être créer les risques d'une petite déception quant à la trajectoire de cette économie. Donc, si vous voulez, c'est un peu moi ce qui me frappe sur la période récente, c'est un peu la fuite en avant que l'on a eu sur la politique monétaire, que l'on a eu sur l'endettement, que l'on a également en termes de réforme fiscale, notamment aux États-Unis. Il y a eu des formes de fuite en avant et on ne sait pas forcément très bien rétro-pédaler, on n'a pas appris forcément très bien à le faire et donc on risque, alors que la période est quand même très favorable, hein. On l'a vu à quelques reprises évoquées, c'est le fait que dans l'économie mondiale, toutes les économies nationales quasiment sont en croissance, enfin toutes les principales, et je crois que c'était le FMI qui s'était amusé à ce comptage et il observait qu'il n'y avait que 5% des économies nationales qui auraient sur 2017 une progression de leur PIB, une progression négative de leur PIB, une contraction de leur PIB. Donc c'est exceptionnel. On a vraiment une mise en phase de toutes les économies dans le monde qui est tout à fait exceptionnelle. Et pour autant, eh bien, on ne se donne pas cette période propice, on ne profite pas de cette période propice pour pouvoir recharger un peu les amortisseurs quand viendra le prochain retournement.
Merci beaucoup Denis Ferrand d'avoir accepté notre invitation, directeur général de COE Rexod, qui est un centre d'études économiques indépendant.
Ici Londres.
Ça en deviendrait presque une habitude. Nous parlons une nouvelle fois dans Ici Londres du Brexit avec Alexander Seale. Bonjour Alexander.
Bonjour Martin. Mardi, plusieurs votes importants ont été remportés par le camp conservateur. Une première étape vers le Brexit, programmée pour mars 2019. Le gouvernement britannique a remporté de justesse mardi une première manche au Parlement où se déroule une bataille majeure sur le projet de loi destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Écoutez bien, 500 amendements au programme. Ces votes sont les premiers d'une longue série. Près de 500 amendements au projet de loi doivent être débattus par les députés britanniques au cours des prochains jours, voire des semaines à venir. Ces projets de loi de retrait de l'Union européenne doivent permettre au pays de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aurait quitté l'Union européenne fin mars 2019. Il avait été approuvé par un premier vote au Parlement en septembre. C'était une courte majorité pour Theresa May. Le gouvernement risque bien sûr une potentielle défaite sur certains amendements clés si des frondeurs du Parti conservateur, des rebelles comme on dit, font alliance avec les députés du Labour, le principal parti d'opposition. La première ministre Theresa May ne dispose qu'une courte majorité à la Chambre des communes après les élections législatives de juin dernier, grâce à son alliance avec le DUP en Irlande du Nord. Par ailleurs, dimanche, The Sunday Times a rapporté que 40 députés du Parti conservateur ont signé une lettre pour écarter Theresa May de son poste. Il ne manquerait que 8 voix pour déclencher le processus de son remplacement. Alors, en Grande-Bretagne, la politique et le Brexit, c'est la catastrophe en ce moment.
Depuis début octobre 2017, l'IRSN français et d'autres régulateurs nucléaires européens ont détecté un nuage radioactif de faible intensité au-dessus de l'Europe. Celui-ci venait vraisemblablement du sud de l'Oural, de Russie ou du Kazakhstan. Il n'y aurait eu aucune conséquence pour la santé des populations du continent, mais l'annonce a provoqué quelques émotions. On se rappelle tous du précédent Tchernobyl après l'explosion du réacteur numéro 4 le 26 avril 1986. C'était la première catastrophe nucléaire de grande ampleur. Et depuis, bien, les autorités locales, des partenaires étrangers et de nombreux pays de la communauté internationale travaillent à en gérer les conséquences. Sur le site de Tchernobyl, au nord de l'Ukraine, des milliers de personnes y travaillent chaque jour pour maintenir les installations, sécuriser le site et achever la nouvelle arche de confinement qui recouvre le réacteur numéro 4. Sébastien Gobert, reporter RFI, s'est rendu sur place à la rencontre des employés de Tchernobyl dans une atmosphère étrange.
Le jour pointe à peine sur la ville de Slavoutitch. L'air est très froid à l'approche de l'hiver. On aurait envie de rester chez soi. Mais c'est une nouvelle journée de travail pour des centaines de personnes qui se hâtent vers le quai de la gare pour attraper le train de 7h41. Le train est plein, tous les sièges sont occupés. Dans un wagon, on rencontre Hanna Pidraina qui se prépare à une longue journée.
Maintenant, penser à mon travail me rend nerveuse. C'est un peu trop. J'ai de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de responsabilités.
À tout juste 25 ans, Hanna Pidraina dirige une équipe de 30 personnes sur son lieu de travail. Le poids des responsabilités l'assomme.
J'ai commencé comme simple interprète. Ensuite, ils m'ont proposé de devenir ingénieur. Ensuite, ils m'ont dit que j'allais travailler à l'intérieur, que j'allais diriger une équipe. C'est trop rapide pour moi.
À l'intérieur, c'est sous la nouvelle arche de confinement au-dessus du réacteur numéro 4 de Tchernobyl. Ce petit train de banlieue est à destination de la centrale qui a fait trembler le monde en 1986. Le sarcophage de protection qui avait été construit à l'époque montrait des signes de fragilité. La nouvelle arche a donc été posée fin 2016 pour le recouvrir. En charge du projet, le consortium français Novarca, composé des groupes Vinci et Bouygues. Hanna Pidraina y travaille depuis 2013 et chaque matin, elle prend ce train pour aller passer sa journée à Tchernobyl. Tous les jours, c'est pareil. En partant de Slavoutitch, le train traverse des fleuves et des marais en passant par un petit bout du territoire de la Biélorussie. Et au bout d'une quarantaine de minutes, les cheminées et les blocs de la centrale de Tchernobyl apparaissent au loin. Le train ralentit et entre en gare de Semirodi. Des centaines de personnes se ruent alors vers la sortie et les vestiaires où ils enfilent des uniformes. Ils se dirigent ensuite vers leur poste de travail. Plus de 31 ans après la catastrophe nucléaire, tout le monde ici a l'air pressé. Il y a beaucoup à faire. Petro-Britann est en charge de la coordination des travaux de construction de l'arche.
En ce moment, nous terminons le projet de la nouvelle arche de confinement au-dessus du réacteur numéro 4. La construction est pratiquement terminée. Il nous reste à assurer l'aménagement de l'intérieur, les structures de travail, les voies de circulation et aussi faire tous les contrôles avant de transférer l'arche à notre client.
Le client, c'est la centrale de Tchernobyl et donc l'État ukrainien. Une fois l'arche aménagée, les autorités nucléaires nationales doivent s'atteler au démantèlement du réacteur et à la sécurisation du site. Un processus de longue haleine qui devrait s'étaler sur 100 ans au minimum. Novarca n'accorde pas l'autorisation pour entrer sous l'arche. Le projet a pris du retard, il devait être fini fin 2017, il est reporté à fin mai 2018. On ne pourra pas donc suivre Hanna Pidraina sur son lieu de travail. Pour Petrobritane, ce retard ne signifie rien de particulier. Il faut juste prendre en compte les défis du travail sous l'arche et s'assurer de finir le projet. Quand il en parle, c'est avec un air très décomplexé. Pour Petrobritane, c'est déjà normal. Il a commencé sa carrière ici, à Tchernobyl, en 2002.
La plupart du temps, je vois cela comme un travail qui me permet de me nourrir, moi et ma famille. Je suis content de pouvoir vivre de mon emploi, mais c'est quand même une occupation spéciale. J'ai l'impression, en fait, de travailler sur une grande œuvre. Ne serait-ce que du point de vue visuel, c'est impressionnant. Et c'est un projet pour l'avenir. C'est une vraie satisfaction d'obtenir des résultats positifs qui aident à protéger le reste du monde des radiations. C'est pour mes enfants, pour les futures générations.
Tchernobyl est une fourmilière. Le consortium Novarka emploie plus de 1 millier de personnes, 2300 travaillent à la centrale nucléaire. En tout, plus de 12 000 personnes sont employées dans la zone d'exclusion autour du site. Dans les blocs de la centrale, des ingénieurs sont occupés au maintien des installations. Le dernier réacteur a été arrêté en décembre 2000 et il faut une longue période pour en assurer la fin d'activité progressive. Dans un autre bâtiment, des ingénieurs sont occupés au traitement de l'ancien combustible nucléaire. Sur un nouveau site à l'écart, un ingénieur explique les travaux de construction d'un silo de dernier cri de stockage des déchets. Conçu comme une ville modèle pour abriter les ingénieurs de la centrale, c'est une curiosité en soi. Les différents quartiers de Slavoutitch sont inspirés des architectures des anciennes républiques soviétiques, de l'Arménie à l'Estonie. La situation de la ville est pourtant précaire. De moins en moins de personnes sont employées à la centrale et par conséquent, la population décline régulièrement. Elena Obi.
Quand on y pense, oui, je suis inquiète pour le futur de Slavoutitch. Mais pour être honnête, je n'y pense pas trop, parce que moi aussi, j'aimerais partir un jour.
Le nouveau maire de Slavoutitch, Yuri Fomichev, serait donc à la tête d'une ville en sursis.
En fait, c'est un problème psychologique pour les habitants plus que ça n'est un danger réel. C'est un questionnement permanent. Que va-t-il se passer demain? Que va devenir Slavoutitch? Le projet de Novarka va bientôt se terminer, les employés vont partir. Que va-t-il se passer ensuite?
Mais pour autant, Yuri Fomichev n'est pas inquiet.
Dans notre histoire, il y a déjà eu un moment bien plus dramatique. C'était l'arrêt de la centrale nucléaire en décembre 2000. Avant cela, la ville disposait d'un approvisionnement en électricité stable et très bon marché. Imaginez-vous que Slavoutitch n'avait jamais eu de problème d'argent, que les infrastructures étaient dans un état remarquable et que l'on avait toujours du chauffage.
Mais la ville a survécu. Yuri Fomichev est très actif, il modernise les infrastructures de la ville et voyage sans cesse afin de chercher de nouveaux partenaires pour assurer le développement de sa ville.
Slavoutitch peut devenir un centre de recherche et développement, attirer des entreprises modernes. Il y a 25 000 habitants aujourd'hui, nous pouvons en accueillir 10 000 de plus. Notre population est qualifiée, les conditions écologiques sont optimales. Il y a déjà de grands espaces pour accueillir des entreprises. Ce sont ces avantages qu'il nous faut promouvoir. C'est notre futur, notre perspective. Venir à Slavoutitch, c'est une ville où il fait bon vivre.
Anton Povar, père de deux enfants, en est lui aussi convaincu. Slavoutitch est un endroit idéal pour vivre.
Si je devais créer mon entreprise de développement informatique, je l'établirais à Slavoutitch. Ça vaut le coup d'essayer. Vous savez, certains de mes amis à Kiev ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils pensent revenir ici pour y travailler à distance.
D'un certain point de vue, Slavoutitch est en période de renouveau et d'expansion culturelle. Plusieurs festivals de cinéma et de photographie se sont implantés dans la ville. Ilko Gladstein est l'un des cofondateurs du Festival 86, nommé en hommage à la catastrophe de la même année.
Notre festival est une opportunité importante pour la ville. Le nom de Slavoutitch est désormais bien connu en Ukraine et à l'étranger. On nous contacte pour y organiser d'autres festivals et d'autres événements.
Depuis 2012, chaque année en mai, Slavutich voit apparaître une foule d'artistes et de jeunes branchés qui viennent découvrir la ville. Des expositions et films sont liés à 1986 et à l'explosion, mais aussi à d'autres thématiques. Ils permettent à Slavutich de dépasser le simple cadre de la centrale de Tchernobyl.
C'est aussi une belle opportunité de réinventer l'identité de la ville. Elle avait été bâtie comme un satellite de la centrale nucléaire qui a fermé en 2001. Depuis, il y a de moins en moins d'emplois offerts. Il y a un besoin pressant de redéfinir l'essence de la ville. S'imposer comme un centre culturel régional peut être une des pistes à explorer pour assurer le développement de la ville.
Visiblement, Ilko Gladstein et le maire ne sont pas les seuls à penser que Slavutich a un avenir. Ce soir, Anna Pidarina découvre avec surprise que le restaurant Tallinn du centre-ville a entièrement été rénové. Un investissement conséquent qui donne un air de fraîcheur à ce bâtiment des années 80. Pour autant, Anna Pidarina sait que cela ne va pas tout régler.
Like Lena told, utopia.
Cette ville, c'est une sorte d'utopie. Au moins, ça y ressemble. Vous savez, chaque ville a ses problèmes, et je sais que beaucoup de gens essaient de s'échapper de Slavutich. Moi, j'aimerais rester, mais si tout le monde part, je ne veux pas rester la dernière, comme si j'étais la reine de Slavutich.
À ses côtés, son amie Elena Obi. Pour l'instant, elle n'a pas prévu son départ de Slavutich. Elle a toujours son travail et sa famille en ville. D'ailleurs, elle ne reste pas longtemps ce soir. Une nouvelle journée de travail l'attend sous l'arche le lendemain.
Je pense que je réaliserai dans 20 ans ou dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est juste mon travail. C'est ma routine du quotidien. Je ne réalise pas à quel point ce que je fais peut être important. Je n'y pense pas en ce moment. Mais j'y penserai plus tard.
Tous deux âgés de 25 ans, Anna Pidarina et Elena Obi sont nés après la catastrophe de 1986. Associés partout ailleurs à la mort et à la désolation, la centrale de Tchernobyl fait donc partie de leur vie et leur offre un travail et un salaire décent. À leur échelle, les deux jeunes femmes et leurs milliers de collègues sont le visage de cette nouvelle génération qui doit gérer les conséquences d'un accident nucléaire sans pour autant y penser chaque jour. La nouvelle génération de Tchernobyl. Un grand reportage de Sébastien Gobert à la réalisation Pierre Chaffangeon.
L'actualité des médias.
fondamentalement sport et dans un dernier contre-pied victorieux, la France l'a emporté dans la course à l'attribution de la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra donc en France en septembre et en octobre 2023. Bonjour Raphaël Redon, vous allez nous parler donc dans fondamentalement sport de cette attribution un peu surprise, hein.
Oui, effectivement, Martin, j'avais envie d'aborder avec vous dans votre traditionnelle rubrique de Fondamentalement Sport du rugby cette semaine, puisqu'en effet, nous avons appris que la France organiserait la Coupe du Monde 2023. Donc c'est une formidable nouvelle pour le sport français et le rugby français pour la suite des événements. En effet, on sait que cet événement va s'inscrire dans une logique très sportive au cours des futures années. Donc j'avais envie de partager cette émission en deux partie. D'abord, on va revenir sur cette candidature et puis sur cette victoire pour l'organisation officielle de cette Coupe du Monde 2023. Et puis, on replacera dans son contexte cette victoire, puisque, comme vous le savez, depuis 2016 et jusqu'en 2024, il y a une vraie période très faste pour le sport français qui va arriver. Et je trouvais ça important d'en parler pour essayer de mieux comprendre comment la France réussit son pari et vraiment réussit à porter des candidatures de façon aussi intelligente et puis d'être aussi performant. Donc tout d'abord cette Coupe du Monde de rugby 2023, on l'a remporté mercredi dernier, face à l'Afrique du Sud et à l'Australie. En effet, ces deux autres nations étaient candidates déjà depuis un an, comme nous, enfin depuis plusieurs années, mais le dossier avait été officiellement déposé l'année dernière. Et puis les deux nations avaient de vrais arguments à faire valoir. Et on n'était pas annoncé favori, puisqu'on s'en souvient, en octobre dernier, il y a quelques semaines, donc, le World Rugby avait déposé un rapport qui établissait l'Afrique du Sud favorite avec 79% des intentions de vote, devant la France 75% et l'Irlande 73%. Et à ce moment-là, on s'est dit que l'Afrique du Sud partait avec une longueur d'avance. En effet, on s'en souvient. Quand on revient un peu sur ce qui s'est passé les années précédentes, sur les précédentes désignations, que ce soit l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, à chaque fois que ce rapport avait désigné une ville, eh bien le vote avait suivi ce rapport et l'intention de vote, en élisant d'abord la Nouvelle-Zélande, puis l'Angleterre, pour les deux dernières Coupes du Monde. Donc on s'était dit que l'Afrique du Sud partait donc avec cette longueur d'avance, et que la France aurait du mal à rattraper. Et finalement, dans la foulée, Bernard Laporte est monté au créneau quelque part en justifiant les propos, enfin en essayant de revenir sur ces propos qui avaient été établis par le World Rugby et en mettant en avant la candidature française, en montrant que ça entrait en contradiction avec ce qui était reproché, puisqu'on parlait d'infrastructures moins bonnes qu'en Afrique du Sud, de sécurité moins bonne qu'en Afrique du Sud, alors que Bernard Laporte estimait que c'était plutôt l'inverse. Et finalement, au lieu de contraindre un peu la candidature française, ça a largement aidé, puisqu'on a un peu renversé la vapeur. Et donc, la France a officiellement été élue pays candidat pour accueillir cette Coupe du Monde 2023. Donc, c'est une énorme satisfaction pour le clan tricolore, emmené par Bernard Laporte, bien sûr, et qui a porté cette candidature depuis son élection à la tête de la fédération, et donc ça a permis de l'emporter et de mettre derrière nous l'Afrique du Sud et l'Australie, qui avaient pourtant des dossiers très convaincants et qui pouvaient apporter quelque chose. Donc nous recevrons cette Coupe du Monde en 2023, 16 ans après celle qui avait eu lieu en France déjà en 2007, on s'en souvient. Alors c'était différent, puisqu'elle avait eu lieu en corrélation avec d'autres pays, l'Écosse et le Pays de Galles. Et donc on recevra tout seul cette compétition, alors que l'Afrique du Sud, elle, ne l'avait pas accueillie depuis 1995. Ça interviendra bien sûr après la Coupe du Monde au Japon, qui aura lieu en 2019. Et donc 4 ans après, ce sera pour nous la Coupe du Monde. On la recevra dans 9 stades. On aura le stade Pierre Mauroy de Lille, la Beaujoire de Nantes, le Matmut Atlantique de Bordeaux, le Stadium de Toulouse, le Vélodrome à Marseille, le Stade de France à Paris. Et puis on aura également le Groupama Stadium à Lyon, donc des beaux stades qui ont été rénovés en partie pour l'Euro 2016. Et donc ça nous amène, ça fait un peu la transition toute trouvée, on parle d'Euro 2016, avec les événements sportifs en France actuellement et dans le futur. En effet, quand on se penche un peu sur le sport actuellement en France, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique qui est emmenée puisque de nombreux dossiers de candidature ont abouti et nous portent sur une période, on va dire, de 8 ans entre 2016 et 2024 à de nombreux événements sportifs que la France va recevoir. L'Euro 2016 a été un peu le fer de lance de cet événement, de cette période. En 2016, on s'en souvient, l'année dernière, la France a atteint la finale et a magnifiquement organisé cet événement où tous les suspicions qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire gérer le budget, avoir des stades en temps et en heure, et puis bien sûr la sécurité, tout ça a été respecté et formidablement réussi. Le pari avait été réussi. Ça s'est enchaîné, bien sûr, en janvier, en début d'année, avec la Coupe du Monde, le Championnat du Monde, pardon, de handball en France, qu'on a reçu, qu'on a gagné. Donc entre ça et la finale de l'Euro, c'est quand même des compétitions qu'on a réussi à organiser et réussi en général à prouver qu'on était quand même une nation de sport. Au-delà de savoir accueillir, on sait les jouer, ces événements sportifs. Donc c'est quand même des belles preuves. Et puis on sait qu'il y a d'autres événements qui arrivent en 2018, notamment il y aura la Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans, alors c'est un événement surtout pour l'avenir. Il y aura bien sûr la Ryder Cup en golf, qui ressemble un peu à la Coupe Davis, où l'Europe et les États-Unis s'affrontent. C'est un gros événement sportif qui aura lieu au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis on aura également en fin d'année, entre novembre et décembre, le championnat d'Europe de handball féminin. Et puis aussi en 2019, nous aurons la Coupe du Monde féminine de football. Ça, c'est pour les gros événements. On aura également les championnats du monde de lutte, de surf, de canoë et kayak. Donc tout ça, ça se joint aussi au Roland-Garros et au Tour de France qu'on a chaque année, bien sûr. Roland-Garros, c'est l'un des gros événements en tennis. Le Tour de France, c'est sûrement la plus grosse course cycliste. Et bien tout ça, sur une période de 8 ans, quand on additionne tout ça, ça montre un vrai projet. On monte le sport comme un critère social important. Enfin, ça devient quelque chose de relativement mis en valeur. Il y a un vrai budget qui est alloué au sport. Alors, c'est sûr, le football, le rugby, même le handball sont aujourd'hui primes un peu sur le reste, même s'il y a 2-3 sports individuels comme le tennis qui sont vraiment mis en avant. Mais on développe les autres sports, que ce soit au niveau féminin aussi, en accueillant le championnat du monde de la Coupe du Monde de football, le championnat d'Europe de handball. Donc c'est extrêmement important de développer cette filière chez les jeunes, avec ce championnat d'Europe des moins de 20 ans. Donc c'est extrêmement, voilà, on développe tous les aspects du sport, hommes, jeunes, femmes. Le paralympique va être mis au cœur du projet avec les Jeux Olympiques. Donc tous les secteurs sont développés et on sait tenir des candidatures, on sait les amener au bout, et ça montre une vraie détermination et des vrais projets. On peut également citer les championnats du monde de ski alpin en 2023, où la station de Méribel et de Courchevel ont déposé un dossier. On affrontera une station autrichienne pour organiser ces championnats du monde en 2023. Ça nous laisse aussi à une petite pensée à David Poisson, qui est malheureusement décédé, le descendeur français qui est décédé dans la semaine. C'est une petite pensée, un petit signe à lui. Et donc voilà, cette candidature 2023, normalement pour le championnat du monde de ski alpin, qui va être déposée. Donc il y a une vraie dynamique, sportive, qui montre qu'on sait gagner. Et c'est important, parce que quand on sait organiser un Euro 2016, qu'on gagne des Jeux Olympiques, après on se dit, les autres organisations, par exemple l'organisation pour la Coupe du Monde de rugby, se dit, d'accord, donc la France, on a un vrai pays qui sait organiser un événement, qui sait le représenter. Et ça montre une vraie importance. Donc voilà pour ce petit débat. J'avais envie d'abord d'évoquer cette candidature, de montrer la fierté des Français. Je pense que la France peut être fière. Alors il y a toujours des gens qui sont peut-être contre, et c'est compréhensible. Au niveau financier, on peut estimer, au niveau sécuritaire, on peut estimer qu'il peut y avoir des problèmes. Mais c'est important de voir que la France est capable de le faire. Et à partir de là, c'est intéressant pour l'avenir. Et puis j'avais envie, voilà, d'élargir et de contextualiser cette victoire en montrant que c'est quelque chose, c'est pas un fait anodin et pris comme ça. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans un contexte de sport où le sport est mis en avant et où les candidatures françaises sont bien portées et bien valorisées. Donc voilà pour cette chronique de Fondamentalement Sport. C'était un plaisir de vous la présenter, et puis à très bientôt pour une nouvelle fois. Salut à tous.
Martha Arnaud.
C'est la fin de cette émission. Vous connaissez bien évidemment les adresses www.c-l'info.fr pour retrouver l'essentiel de l'actualité chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et pour ainsi donc être au courant de l'actualité, nous retrouvons le week-end prochain pour de nouvelles actualités sur vos radios et sur c-l'info.fr. Bonne semaine à tous.